et bonsoir à tous. Une semaine avec et pour le plus grand des poètes, Charles Baudelaire, dans les nouveaux chemins de la connaissance, en compagnie du philosophe Jacques Dariula, qui enseigne l'esthétique à l'Université de Paris 4. Alors il faut revenir un instant sur le spleen, Jacques Dariula, qu'on évoquait hier. Hein. Le mot, vous l'avez rappelé, était attesté. Dès le XVIIIe siècle, Diderot avait déjà évoqué le spleen, S-P-L-I-N-E, ou les vapeurs anglaises, non sans ironie d'ailleurs. Le mot anglais, lui, remonte au XIVe siècle et il désigne la rate, le siège de la bile noire, ce qui d'ailleurs, bile noire en grec, se dit mélancolie. Vous rappelez dans votre cours qu'en l'empruntant à une langue étrangère, Baudelaire souligne l'étrangeté de cet état qui s'abat comme une malédiction sur l'esprit et le laisse désemparé, en somme. Et Baudelaire, de ce point de vue, peut-être, en tout cas du point de vue de certains de nos auditeurs, est prophétique. Le spleen est la peste moderne qui nous vient d'Amérique, le règne de l'argent et le mépris de l'idéal qui nous américanise, Jacques Dariula.
Oui, le monde est voué à cette angoisse américanisée. Baudelaire a inventé cet adjectif, qui peut être aussi un verbe. C'est un ennui moderne lié à cet effondrement de l'idéal ou des critères ou dire, de façon peut-être un peu dramatique, mais enfin c'est bien ainsi que qu'on peut le nommer, qui est lié au sentiment de la mort de Dieu. Et dans ces foules orphelines d'un père ou d'un repère, eh bien le spleen s'abat sur les hommes modernes, dans les sociétés modernes, dans les capitales modernes, la capitale infâme, comme dit Baudelaire, et la tâche du poète est de trouver le chemin d'une rédemption, c'est-à-dire non pas d'une rédemption morale ni religieuse.
C'est pas une sotériologie, il n'y a pas de doctrine du salut chez Baudelaire, bizarrement.
Il y a quand même un art qu'il dit résurrectionniste, et la résurrection n'est pas loin d'une idée de la rédemption, même si c'est une résurrection qui se situe ici, maintenant, dans ce monde, et non pas dans un autre monde. Mais je crois que Baudelaire attend de la poésie une sorte de transmutation d'un monde sans idéal en un monde poétique où la symphonie des sensations va rendre possible une nouvelle poésie, celle de la modernité, qu'il tente de définir.
Mais ça, c'est toute l'ambivalence de Baudelaire, parce que vous dites la résurrection se fait dans ce monde et non pas dans un autre monde. Et d'ailleurs, c'est la leçon du spleen. Hein. Oui. Nous ne sortons pas, comme disent les Chinois, du ciel qui nous contient. Et ce que Baudelaire décrit, la condition du poète, qui est aussi la condition humaine, prisonnier d'une réalité blafarde. Mais en même temps, Baudelaire, deux fois prophétique, alors, est à la fois hostile à l'Amérique et en même temps altermondialiste. Dans ce texte extrait du spleen de Paris, Anywhere Out of the World, d'ailleurs il l'écrit en anglais, le titre est en anglais, c'est un drôle de texte, dans lequel Baudelaire discute avec son âme. Alors il lui dit, bon, dis-moi mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Alors il lui décrit Lisbonne et mon âme ne répond pas, dit-il. Alors ensuite il dit, puisque tu aimes tant le repos, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante? Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte? Là-dessus, il continue. Il veut l'emmener à Tornéo ou à l'extrême bout de la Baltique, ou encore même, si c'est possible, dit-il, installons-nous au pôle. Et là, son âme explose et sagement, elle crie, et c'est la fin du texte, n'importe où, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Jacques Dariula, mais alors, si c'est hors de ce monde, et si pourtant on ne sort pas de ce monde, c'est où?
C'est toute la difficulté de réinventer la poésie dans un monde sans poésie. Je crois que le point de vue très original, enfin le renversement peut-être le plus génial, ou du moins en ce sens qu'il est à l'origine, qu'il est la conversion qui va conduire Baudelaire vers l'invention d'une poésie radicalement nouvelle, qui est celle de la modernité, c'est que le spleen est presque la muse du poète. C'est-à-dire que le mal de l'ennui, comme un mal métaphysique, c'est-à-dire comme une passion paradoxale, puisque le propre de toute passion, disait-on à l'âge classique, c'était de se fixer sur un objet, l'avare sur sa cassette, l'amant sur les yeux de la marquise, eh bien, le propre de l'ennui, de la passion de l'ennui, c'est que, présent, il n'a pas d'objet. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, eh bien, Pourquoi tu t'ennuies? Eh bien, je ne sais pas. Nous ne connaissons pas la cause de l'ennui, parce que la cause de l'ennui, c'est le sentiment du néant qui se répand en notre âme.
Il a ça en commun avec la joie, d'ailleurs, d'une certaine manière. La joie n'a pas d'objet non plus. C'est peut-être l'envers de l'ennui.
Et alors, les stratégies de la vie à l'égard de l'ennui consistaient toujours, à l'âge classique, c'était des stratégies de diversion ou de divertissement. Il s'agissait de se donner un centre d'intérêt, si artificiel soit-il. Il suffit aux enfants d'une balle qu'on pousse pour être sauvés de cette longue descente dans le gouffre du néant. Or, ce qu'il y a d'original chez Baudelaire, il me semble, ce qu'il y a vraiment la démarche, je dirais, extraordinaire que va tenter Baudelaire, c'est de trouver le salut ou de réinventer la poésie, non pas en esquivant l'ennui, en cherchant à faire diversion contre ce mal du néant, qui est la pure passion du temps qui passe, mais c'est au contraire en poussant l'ennui jusqu'au bout, en allant jusqu'au fond de l'ennui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'ennui peut être une muse poétique. Il suffit d'ailleurs de penser à la façon dont on éprouve l'ennui. L'ennui est finalement un sentiment très étrange. D'abord, les sons s'éloignent. Dans l'ennui, on n'entend plus qu'une porte qui claque, un cri dans la cour. Le monde se fragmente en signes et prend aussi une présence. Les objets ont une présence nouvelle car l'esprit n'est plus assez fort pour opposer à la présence du monde la grille du langage ou la grille du concept.
Ou de l'utilité.
Ou de l'utilité. On peut dire en ce sens effectivement que l'ennui est une découverte d'un monde qui nous désintéresse, au sens où plutôt c'est pas nous qui nous désintéressons du monde.
On découvre la vacuité de ce qui est utile.
Oui.
L'inanité de ce qui n'est qu'utile.
Le néant de toute fin humaine, oui, c'est vrai. Mais on découvre aussi l'étrange présence du monde. C'est-à-dire que dans l'ennui, les objets, c'est presque quelque chose presque de psychotique, se produit une schise qui conduit au sentiment de la déréalité, les objets prennent une sorte d'autonomie. Comme si le sujet étant en voie de disparition, le monde réciproquement profitait, enfin gagnait à la défaite du sujet pour accentuer l'intensité de sa présence. Si bien qu'il y a une présence du monde qui fait signe dans l'ennui, l'ennui va allégoriser le monde, c'est-à-dire que l'arbre devient une sorte d'arbre en soi et le sujet est comme hypnotisé. La conscience s'englue, se noie dans l'ennui et le sujet hypnotisé voit apparaître devant lui des objets. C'est bien ce monde, mais c'est un monde que l'orgueil des fins que nous poursuivons nous fait sans cesse oublier ou refouler. L'objet hypnotisé devient une sorte d'hallucination et le monde se met à... Le langage des fleurs et des choses muettes commence à naître. Le monde devient une sorte de symphonie, le bruit du vent. On est sensible à toutes ces sensations que recouvre notre langage lorsqu'il poursuit son fil. On oublie d'entendre le vent derrière la fenêtre, on oublie d'entendre le chant d'un oiseau, le craquement d'une branche. Et dans le silence de l'ennui, tous ces bruits prennent leur revanche et le monde, comme dit merveilleusement le français, fait acte de présence.
Le langage de ces choses muettes, Jacques Dariula, et de ce monde sans les hommes, c'est aussi celui que Sartre emploiera dans ce très beau livre qu'est La Nausée. Alors, je ne suis pas sûr que le parallèle vous agrée, mais c'est vrai que la démarche est la même. On découvre aussi dans La Nausée ces objets qui se révèlent parce qu'ils cessent d'être des objets pour une conscience, justement, et qu'ils conquièrent bizarrement, par l'épreuve de cet ennui métaphysique, une forme d'autonomie. Je voudrais qu'on entende de Baudelaire peut-être le plus beau de tous ses textes, qui est le quatrième poème qu'il consacre au spleen, puisqu'il faut rappeler que dans la section spleen et idéal, il y a quatre poèmes de Baudelaire consacrés au spleen. Voici le dernier d'entre eux, et où l'on retrouve justement l'idée d'autonomie des objets avec ces cloches qui d'elles-mêmes sautent avec furie.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Il n'y a plus d'espoir, l'angoisse a gagné, et au fond de cette déréliction, Baudelaire produit le plus beau de ses poèmes, Jacques Dariula.
Exactement. C'est-à-dire que l'alchimie poétique ici ne crée pas un monde qui nous divertit de l'ennui, mais c'est au contraire l'ennui qui devient inspirateur d'une poésie moderne. Et la découverte aussi de ce défilé du temps et des êtres pour la mort, sans tambour ni musique, qui rend possible une musique nouvelle. Cette voix rauque dont parle Baudelaire, plus rien à voir avec les vers de Musset, la recherche de la musicalité, une poésie agréable qui doit embellir le monde. Ici, c'est un paradoxe étonnant, c'est en allant jusqu'au bout de l'absence du sens que se découvre l'étrange présence du monde. Et la poésie prend pour objet ce que justement la poésie auparavant avait toujours renié comme le non poétique. Donc il y a un renversement qui est vraiment, je crois, ce qu'il y a de plus nouveau, une sorte de conversion à la poétique de l'ennui et qui est tout à fait contraire à ce qu'on faisait à toute pensée de la poésie, qui était un embellissement, qui devait sauver le réel en l'embellissant du rêve.
La poésie est toujours crépusculaire, il y a toujours un élément de crépuscule dans cette poésie, c'est-à-dire que la poésie, c'est étonnant, dans un autre spleen, je crois que c'est spleen 2 cette fois-ci, Baudelaire dit « L'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus aux matières vivantes qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche, ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. » Baudelaire parle de la poésie elle-même, là, de l'art poétique lui-même. Or, bizarrement, il en parle comme Hegel, son ennemi conceptuel, lui, parle de la philosophie. Quand il dit dans les principes de la philosophie du droit, « La philosophie vient toujours trop tard, ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. » En somme, là où Baudelaire devient poète, au fond de l'ennui, Hegel, lui, devient philosophe. On peut dire ça comme ça ?
Oui, mais alors, ce sont des attitudes tout à fait opposées. Pour Hegel, le philosophe pense toujours trop tard, et c'est le soir de la bataille, entouré de décombres, que le temps de la réflexion, dans la paix de la nuit, permet à l'humanité de récapituler, car c'est la tâche du philosophe,
on vit, puis on
de
pense.
Faire le bilan de ce qui s'est passé. Oui. Oui, ou plutôt, c'est pas seulement on vit, on pense, et il faut avoir vécu pour bien penser.
Vous savez que dans le
et
poème de Baudelaire
vécu,
que je viens de
pas
dans le poème de Baudelaire que je viens de lire, il commence en disant j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, un gros meuble à tiroirs, oui, encombré de bilans.
Oui,
justement.
Oui, je retenais cette image du sphinx. Dans, et vous faisiez allusion tout à l'heure à la nausée. Oui, je parlais de la présence muette du monde. Le monde se révèle comme un sphinx par l'expérience du spleen. Et c'est une révélation, une découverte qui est au cœur de la poésie baudelairienne. Alors que chez Sartre, la racine de l'arbre est ce par quoi j'éprouve l'englument de mon existence dans l'absurde, dans le non-sens. Au contraire, le spleen est chez Baudelaire ce par quoi je découvre une certaine magie du monde. Et ce par quoi je découvre aussi peut-être cette beauté maléfique qui porte en elle la mort, puisque l'ennui est une pensée de la mort, cette beauté maléfique qui n'a aucun sens. Effectivement. C'est la condition de la beauté ici, c'est cette absence de sens de la pure présence. Quelque chose comme une hallucination. L'ennui est un bon coefficient de l'hallucination, et par l'hallucination, la poésie peut réinventer le monde en laissant entendre la correspondance des sensations qui font du monde une symphonie qui vaut par elle-même, indifférente finalement au sujet qui qui est là pour témoigner.
Est-ce que c'est pour ça que la ville, le paysage urbain est Paris, le spleen de Paris? Est-ce que c'est pour ça que la ville est l'écrin, le décor de l'ennui, Jacques Dariula, chez Baudelaire?
Vous savez, il parle de la ville comme un Sahara, hein, comme un grand désert d'hommes aussi.
Grand désert, un désert plein d'hommes.
Voilà. Ces foules sont solitaires. On n'est jamais aussi seul qu'au sein de la multitude. Ces capitales, qui sont aussi une expérience du déracinement au XIXe siècle, puisque ces foules, elles naissent de l'exode rural. C'est-à-dire, ces foules passent, c'est une humanité qui passe, une humanité émigrée, errante, sans lieu propre. La capitale est un perpétuel lieu de passage. Benjamin avait voulu écrire un beau chapitre sur Baudelaire dans un ouvrage où il pensait précisément que les passages étaient les lieux les plus poétiques du XIXe siècle. Le paysan de Paris, le texte d'Aragon dans Le paysan de Paris reprendra cette intuition fondamentale. Effectivement, la capitale, c'est un lieu où l'on passe. Lorsque Baudelaire parle des capitales, il ne parle jamais c'est le souvenir d'enfance avec la mère, mais de la maison où l'on est chez soi, où l'on trouve son lieu propre et son lieu de repos, mais plutôt de foules errantes qui vont on ne sait où et qui viennent d'on ne sait où. Qui passe ainsi comme passe le temps ou comme passe un immense défilé de corbillards sans tambour ni musique. Donc, en ce sens, oui, la ville est bien un théâtre de l'errance de l'ennui.
Alors, je voudrais qu'on entende justement dans ce passage l'un des plus beaux textes, là encore, de Baudelaire. Je vais arrêter de dire ça parce qu'ils sont tous beaux. Donc, on va entendre un poème de Baudelaire à une passante.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine. Et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, cette passante que Baudelaire croise, fugitive apparition, pure jaillie donc dans le spleen de la ville, témoigne du fait que chez Baudelaire, la beauté naît de l'ennui même, du spleen, du vertige du spleen, cette beauté étrange, toujours bizarre, qui fait éclore ses fleurs dans ce paysage urbain, blafard. Ça va chez Baudelaire avec l'idée des deux muses, hein, la muse bégueule, académique, et la muse sensible, celle des chiens calamiteux, comme il dit Jacques Dariula.
Des chiens crottés qui courent précisément.
Des chiens des villes.
Des chiens des villes qui courent sur les trottoirs, menacés par les jambes des passants, puisque tout le monde passe dans une ville et personne ne s'arrête. Oui, bien sûr, la ville qui est ce grand théâtre du spleen, où le spectacle effarant d'une humanité affairée pour aller nulle part, hein, l'agitation de nulle part, et l'élément au sein duquel le poète doit préserver, doit extraire, comme un alchimiste extrait la quintessence d'une substance, doit extraire la beauté. Et je crois que, oui, je disais que le spleen, c'est long corbillard sans tambour ni musique, c'est la foule, c'est les nuages qui passent aussi. Le monde devient une sorte de mouvement d'exilés, qui ne cesse de passer, d'ailleurs Daumier, qui est un des plus grands artistes avec Delacroix et Ingres de son temps, selon Baudelaire, a dessiné un merveilleux pochade qui représente la foule des émigrés, le défilé des émigrés, comme un long corbillard sans tambour ni musique. Le monde entier est ainsi exilé et passe comme un défilé de nuages.
On en parlait hier d'ailleurs, hein, plutôt Daumier que David, chez Baudelaire, hein, évidemment.
Oui, ah ben,
David... plutôt le trait de Daumier que les grandes fresques de David.
C'est que David a représenté la tentative de faire renaître un idéal classique que la modernité renie. Et ce que Baudelaire a parfaitement compris, et c'est l'intérêt du néoclassicisme, mais ça c'est autre chose, mais je crois que c'est une expérience aussi fondamentale dans la genèse de la poétique baudelairienne, c'est que l'échec du néoclassicisme est extrêmement instructif, puisqu'au fond, toute l'histoire de l'art posait comme modèle de la beauté le modèle antique. Et... dire qu'il faut imiter le modèle antique, cela voulait dire qu'on pouvait le rendre à nouveau vivant, comme, disait-on, l'avaient fait fabuleusement les anciens qui parvenaient à rendre vivants des dieux qui sont des formes idéales, conçues par l'esprit humain et nullement réelles. Or, la Renaissance italienne avait pour modèle le canon antique. Or, ce que va vivre le néoclassicisme, ce que nous ressentons souvent et ce qui d'ailleurs nous éloigne du néoclassicisme, c'est ce qu'on dit ordinairement, on dit que c'est un art qui est froid, allégorique, sans âme.
C'est Baudelaire qui le dit, hein, lui-même.
Il
allume David dans des lettres qu'il envoie tout le temps, et en particulier d'ailleurs à Opic, à son beau-père.
Bien sûr, le général, qui aimait les tableaux militaires et l'exaltation de l'héroïsme militaire.
Oui, et le réalisme socialiste, probablement.
Voilà, il y a un côté kitsch, effectivement, surtout dans les tableaux de Bruxelles de David. Mais ce qui est intéressant dans le néoclassicisme, je veux dire, c'est son échec même. Ce qu'il y a de beau, ce qui est curieux, c'est que nous ne soyons plus capables de construire le Parthénon et que nous ne faisons que la Madeleine. Et il est évident qu'il y a un abîme entre les deux. C'est-à-dire que le modèle antique est à jamais mort. Il est impossible. Le néoclassicisme a été l'expérience pratique faite par les artistes qu'il n'était plus possible de faire revivre le modèle antique qui avait été le modèle de l'art, mais depuis des siècles et des siècles. Et par conséquent, cela remet en question radicalement le modèle de la beauté.
Alors, comme toujours chez Baudelaire, les affections fondamentales ont des origines tout à fait incarnées. On peut trouver une traduction politique de cet ennui. Finalement, le spleen, c'est le Second Empire. Baudelaire aborde le coup d'État de 1851. Il a été, d'ailleurs, il faut le rappeler un instant, il a été 48ard, Baudelaire, bizarrement. Cet homme-là, celui qui écrira plus tard « Assommons les pauvres », a été 48ard. Mais en revanche, le coup d'État de 51, lui, l'a converti au nihilisme et au désespoir. Il y a une traduction politique du spleen. C'est le monde de la bourgeoisie, c'est le monde du Second Empire. Baudelaire et Flaubert, de ce point de vue, ont les mêmes ennemis. Ce sont tous les deux anti-modernes, ultra-modernes.
Absolument. Baudelaire dira dans une lettre que le coup d'État l'a physiquement dépolitiqué. Expression extraordinaire qui évoque une sorte de castration. Et en 48, il dit lui-même que non seulement les journées de février, qui répondent à l'idéal qu'il nommera ironiquement fraternitaire ensuite, mais les journées de juin, les barricades qui sont alors terribles et où il était dangereux de faire le coup de fusil, pour reprendre l'expression de Baudelaire. Baudelaire a fait le coup de fusil. On le voyait au carrefour de Bussy criant « Il faut fusiller le général Opic ».
Ça, c'est une affaire de famille. Autre point commun entre Baudelaire et Sartre, au demeurant d'ailleurs. Ils avaient le même rapport à leur beau-père.
Hein. Oui.
L'un vendait des bateaux, l'autre était général, mais enfin, c'était pas terrible non plus. Bon.
Oui. Je reste un peu sceptique devant les reproches très moralisants, je trouve, que Sartre fait à l'inauthenticité de Baudelaire. Je ne connais peu de poésie aussi authentique et profonde que celle de Baudelaire, et je ne crois pas que la mauvaise foi soit vraiment une clé pour comprendre ce poète. Mais il y a eu trois grandes périodes, finalement, dans l'évolution poétique de Baudelaire. Il y a l'amour, il y a la rencontre de Jeanne Duval, qui est une actrice qu'il rencontre dans la distance théâtrale, donc avec toute la magie du maquillage, embellie, magnifiée par les feux de la rampe. Il y a 48, qui est l'espérance, car ou aussi les préfaces aux chansons de Pierre Dupont, aux chansons populaires. Baudelaire avait une affection pour ces chansons populaires qui chantaient l'idéal fraternitaire. Il croit sans doute en 48, il participe à des journaux républicains, même si il a quand même des positions modérées, on va dire, soit un gauchiste. Mais enfin, il fait quand même le coup de fusil en juin, ce qui est dangereux et ce qui implique un véritable courage.
Puis il devient dandy, comme on dit.
Et puis ensuite, il y a le coup d'État. Et le coup d'État qui va de pair avec la découverte de Pau, c'est-à-dire d'une esthétique de la mort, hein, d'une métamorphose du néant en beauté. Cette conversion si mystérieuse qui est au cœur de sa poétique. Et puis Wagner, la musique de Wagner, qui est aussi une sorte de houle enivrante qui trouve tout à fait son équivalent, d'ailleurs, dans le mouvement de bercement qui est si souvent sensible dans la poésie de Baudelaire. Et à ce moment-là, à partir du coup d'État, à partir du Second Empire, le maître à penser de Baudelaire, même s'il y a de la provocation et du dantisme, c'est Joseph de Maistre, c'est-à-dire le
contre-révolutionnaire par excellence.
Par excellence.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Baudelaire devient ce dandy, hein, celui qu'il désigne lui-même comme un dandy, c'est-à-dire finalement celui qui, déçu par l'absolu, apaise sa soif d'absolu en exerçant sa volonté, mais sans lui fixer d'objet. Celui qui prend tellement la vie au sérieux qu'il découvre qu'elle est une plaisanterie. Celui qui aime trop la vie pour en supporter la défaillance et qui donc s'attache au dérisoire, faute de l'essentiel. Est-ce que on peut parler du dandysme de Baudelaire comme d'un, enfin de Baudelaire dandy comme d'un, une sorte de martyr de l'absolu? Je reprends cette expression à Nicolas Grimaldi. Martyr de l'absolu, est-ce que ça vous conviendrait?
C'est une expression très religieuse, je ne sais, il faut peut-être faire attention pour Baudelaire, je ne sais pas, enfin si l'on veut. Il me semble que le dandy, c'est l'adorateur des formes, c'est-à-dire que dans la dissolution de toute forme qui se produit dans ce flux, cet océan des foules résignées, exilées, passantes, sans lieu propre, toujours en mouvement, donc toujours c'est un mouvement de perpétuelle métamorphose. On pourrait presque faire un parallèle entre la foule de la capitale et la charogne. La charogne, si, dans cet extraordinaire poème, tout à fait paradoxal, c'est la première fois qu'on avait fait un poème sur une charogne, hein, la charogne est comme un nuage ou comme une foule, c'est-à-dire c'est un jeu de couleurs en perpétuelle métamorphose. Et l'art poétique consiste à tirer. Il le dit, les formes s'effacer n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. C'est l'artiste qui prélève sur le travail de la corruption et de la mort à laquelle est vouée maintenant de façon irrémédiable l'humanité, qui prélève une ébauche lente à venir. Mais c'est le génie de l'artiste de faire naître de cette ébauche le dessin définitif de la beauté. Et par le travail du souvenir, nous le verrons, parce que l'art est mnémotechnique, il ressuscite cette forme. Et le dandy, quel est-il? C'est celui qui célèbre le culte de la forme. C'est ce que Baudelaire appelle, avec ironie mais avec force, notre héroïsme. Nous sommes héroïques à notre façon, avec nos redingotes noires et nos bottines cirées, dit-il, dans cet habit noir qu'il compare à un croque-mort, puisque nous portons tous le deuil d'un idéal et que nous sommes une forme en perpétuelle décomposition. Et le dandy sauve cet effondrement de la forme par un culte de la forme et un amour des images pour lequel Baudelaire avait une véritable passion. Baudelaire est un iconodule et il adore la pureté de la forme.
L'iconodule Baudelaire, c'est avec Barbara qu'on termine cette émission.
Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous est sans sommeil, au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre. Vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou.
Oui, donc Barbara, le mal de vivre. Alors, ce qu'on ne dira pas, c'est que le mal de vivre, la chanson de Barbara s'achève par la joie de vivre. Mais on n'en est pas encore là. La joie de vivre, ce sera peut-être pour demain, puisqu'après l'ennui, c'est de drogue que nous parlerons. La drogue qui sert chez Baudelaire de chemin vers cet ailleurs qui n'en est pas un. On verra tout ça. La drogue, donc, comme un des chemins de la connaissance et dont nous parlerons à plus forte raison. Donc demain à 19h30 avec vous, Jacques Dariula. Merci d'être venu nous voir. Je redonne l'adresse de votre site internet où l'on trouve vos cours, www.jdariula.net. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, avec à la réalisation Mehdi El Hadj, à la technique Olivier Dupré, assistante Geneviève Méric, Marion Richet, Avril Ventura. À demain donc pour la suite de cette odyssée baudelairienne en compagnie de Jacques Dariula. France Culture, il est 20h. Et tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.